Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de Roger l'Allemand. L'historien Pierre van den Dungen publie une biographie de Roger l'Allemand intitulée Roger l'Allemand, tout simplement, La liberté en chemin comme sous-titre, et c'est publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Alors, Roger l'Allemand est surtout connu comme co-auteur de la loi sur la dépénalisation de l'avortement en Belgique. On le sait, il s'est beaucoup impliqué dans de nombreux débats éthiques en Belgique et ailleurs. Avocat brillant, ministre d'État alors qu'il n'a jamais été ministre, chaud partisan du libre examen cher à l'ULB. Pour nous en parler donc aujourd'hui, on reçoit Pierre van den Dungen, chargé de cours en histoire à l'ULB et professeur à la Cambre et auteur de cette biographie dont je vous rappelle le titre tout simple, Roger l'Allemand, sous-titre La liberté en chemin aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Pierre van den Dungen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler d'un ouvrage qui sort de presse intitulé sobrement Roger l'Allemand, sous-titre La liberté en chemin. C'est publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine, dont on parlera dans quelques instants. Vous êtes chargé de cours en histoire à l'Université libre de Bruxelles et professeur à la Cambre également. Vous avez, votre premier livre biographique. Vous avez écrit une biographie d'Hubert Pierlot, qui était le premier ministre du gouvernement en exil à Londres. Ça nous rapporte quelques années en arrière. Et puis la biographie, et ça ne sait pas dire non plus, d'Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913. Et vous êtes, je le mentionne immédiatement, président de cette fameuse fondation Henri Lafontaine. On en touchera un mot un peu plus tard dans cette émission. Pardon. Mais d'abord, parlons de ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir Roger l'Allemand. Il est surtout connu, Roger l'Allemand, pour être le co-auteur de la loi sur la dépénalisation de l'avortement en Belgique. On sait qu'il s'impliquait dans de nombreux débats éthiques, l'euthanasie, le droit des homosexuels et même les droits d'auteur.
Oui.
Alors ça n'a rien à voir, mais quand même, on peut en toucher un mot, c'est quand même important, surtout vous qui êtes intéressé par la musique, de même que l'était Roger l'Allemand, qui a été président du Théâtre Royal de la Monnaie pendant quelques années. On le connaît comme avocat brillant, il en a défendu des personnes qui étaient certaines d'entre elles très très connues. Je pense à Régis Debray, je pense au fameux Babar qui était à l'initiative d'Alternative Libertaire, ce magazine d'extrême gauche. Beaucoup de choses. Et puis, il est ministre d'État aussi. Il est devenu ministre d'État en 2002. Il a toujours été actif en politique, ça on va en parler dans quelques instants, au Sénat ou ailleurs, mais jamais ministre. Il le devient en 2002 grâce à Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre, qui signe d'ailleurs la préface de ce livre. C'est incroyable ça, qu'une personne d'une telle renommée sur le plan politique en Belgique n'ait jamais exercé la fonction de ministre.
Oui, alors en même temps, c'est quelqu'un qui est très très intéressé par la chose publique, mais qui s'est mieux exprimé, si je puis dire, qui a pu mieux exprimer sa passion plutôt au Sénat. Donc, c'est-à-dire dans le cadre du pouvoir législatif où il pouvait réfléchir finalement à la construction de lois en collaboration avec un autre pouvoir qu'il admirait beaucoup, qui était le pouvoir judiciaire. Après, Il est possible qu'il ait un jour espéré être ministre de la Justice. C'est envisageable. On lui a proposé au sein du Parti socialiste, qui était le sien, d'être ministre communautaire de la culture, mais ça, il l'a refusé.
Ministre d'État, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'on va reconnaître effectivement l'action véritablement qui a été posée. Normalement, c'est vrai qu'il faut être ministre pour l'être, mais on peut aussi le devenir, et ça a été son cas à titre de service exceptionnel. Il est clair que, en l'occurrence, c'est toutes les actions dont vous avez parlé, c'est-à-dire la conjonction entre le métier d'avocat où il a poursuivi des combats, mais aussi évidemment, dès qu'il l'a pu, quand il est élu au Sénat à partir de 1979, poursuivre des grands combats de société dans la chambre haute, la chambre de réflexion, qui est encore une chambre de pouvoir au temps où il en est l'élu. Il va connaître en fait la perte de pouvoir de cette instance qui va vraisemblablement, et de mon point de vue malheureusement, disparaître au cours de ces différents mandats. Il commence comme coopté, puis il est élu en tant que sénateur. Et c'est une chambre où en fait, plus facilement, qu'à la Chambre des représentants, il peut y avoir effectivement un regard réflexif entre gens de partis différents. Parce que l'Allemand est quelqu'un qui est engagé, indubitablement, qui est même dans sa jeunesse et jusque dans les années 1970 proche des radicalités. Mmh. Mais c'est quand même quelqu'un qui estime que pour qu'un projet aboutisse, puisque jamais on ne parviendra à convaincre 100% de l'opinion, eh bien, il faut entrer en contact avec celles et ceux qui ont des opinions contraires aux vôtres.
Mmh. Guy Verhofstadt, en 2002, le fait donc ministre d'État. Il signe la préface de votre ouvrage, Roger l'Allemand, La liberté en chemin, publié aux éditions Henri Lafontaine. Lui aussi signe d'ailleurs, Guy Verhofstadt, ministre d'État, alors qu'on sait qu'il a été Premier ministre. Oui. Pourquoi avoir fait appel à lui ?
Mais en fait, parce qu'ils ont été pendant plus de 20 ans des amis. Alors, ils ne partageaient pas du tout
les mêmes
idées, absolument. Néanmoins, sur deux grands sujets de société, l'avortement et dans le cas, au moment où Verhofstadt était aux affaires, la dépénalisation encadrée de l'euthanasie, de la fin de vie, qui ont été finalement deux combats où de mêmes arguments ont pu être évoqués, c'est-à-dire...
Les arguments de droit et pas de morale.
Le droit, pas la morale, c'est exactement ça. Eh bien, en fait, ça démontre simplement que l'Allemand a toujours pensé qu'il était possible d'être proche de gens qu'on va dire non dogmatiques, c'est-à-dire qui acceptaient, soit chez les libéraux progressistes, soit chez les démocrates chrétiens, une idée que la société devait aller dans un sens de progrès.
Non-dogmatisme, on va assez facilement glisser sur l'ULB et le libre examen qui est un frontispice de l'Université libre de Bruxelles. D'abord, rapide biographie de Roger l'Allemand. Il est né dans le Hainaut, d'une famille modeste en 1932. Il est le premier à faire des études universitaires. C'est donc ici, à l'ULB, qu'il jette son dévolu, licencié en philologie romane, docteur en droit. Il occupe pendant ses études la fonction de président du cercle du libre examen de l'université. En venant dans ce studio, Pierre Van den Nuggen, vous êtes passé devant les locaux du Librex, ça vous a évoqué quelque chose ?
Certainement, parce que je pense que, et l'Allemand en a parlé tout au long de sa vie, encore dans une interview qu'il fait en 2003, c'est le principe vraiment fondateur de son action publique et de ses choix personnels. C'est-à-dire, pour le résumer de façon un peu schématique, mais pour garder les éléments clés, c'est l'idée véritablement qu'il faut envisager chaque question politique, chaque question de société avec sa raison et surtout sans s'encombrer de dogmes ou de morale qui pourraient vous interdire parfois d'aller à contre-courant de ce que spontanément vous seriez à même de penser. Il ajoute à cela, parce que c'est son époque, il est président du Librex de 1952 à 1956, un existentialisme sartrien, d'où le sous-titre de l'ouvrage, hein, le chemin de la liberté, c'est un titre de Sartre, et moi je mets la liberté en chemin au pluriel, parce qu'il va emprunter plusieurs chemins, ce sont les deux idées, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent aussi si on a des idées, et du mieux que l'on peut, essayer aussi de les vivre et voir de passer à l'action. Donc il y a cette conjonction des deux manières d'envisager une jeunesse militante.
Vous dites, page 16, Roger Lallemand, La liberté en chemin, publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine, vous dites « Plus tard dans la cinquantaine, il parlera de son passage à l'ULB comme d'un moment émancipateur, fondamental, je crois que c'est ce que vous étiez en train d'essayer de nous expliquer il y a un instant, hein, à l'instar de la vie dans une grande ville comme Bruxelles, dont l'alignement libère, au contraire de l'existence villageoise où chacun et chacune se connaît et doit tenir compte du jugement de l'autre. »
Et ça, c'est ce que l'Allemand dit lui-même.
Hein, ouais, c'est ça. Ouais, oui, reprenez ses mots. Ouais, ouais. Alors, il est président du Librex, et donc ça fonde sa conscience politique, manifestement, ou en tout cas, ça la conforte, de 1952 à 1958. Période importante dans sa vie, évidemment, et son rapport à l'Université libre de Bruxelles. Et il a aussi un rapport très particulier avec la question de la décolonisation, qui lui tient particulièrement à cœur. Il crée une ASBL, il est encore très jeune, hein, Amitié belgo-congolaise, en 1957, et donc il est véritablement intéressé par cette question coloniale, alors que, si j'ai bien lu, son grand-père paternel avait séjourné au Congo pendant 6 ans.
Oui,
et lui avait déjà des idées progressistes sur la question.
Oui, c'est-à-dire qu'il était revenu en lui disant que on te dira effectivement que les Noirs sont inférieurs, tu ne dois pas le croire. C'est un peu la légende familiale, mais c'est vrai que ce grand-père Alphonse, l'Allemand, sera très, très, très marqué. Mais donc, il faut bien comprendre que parmi d'autres, il appartient à cette jeunesse qui est vraiment universaliste et qui pense que dans la logique de décolonisation qui doit venir, c'est l'opportunité pour créer finalement un monde universellement social-démocrate qui se débarrasserait du capitalisme sans pour autant être communisme. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a l'occasion d'aller au Congo en 1956, il va tâcher de rencontrer les premiers leaders syndicalistes ou membres du Parti socialiste au Congo, qui est encore belge à l'époque. Et d'ailleurs, il noue des amitiés avec ceux que l'on appelle à l'époque alors donc les premiers évolués, hein, c'est le vocabulaire d'époque, pour désigner des Noirs qui avaient une première instruction. Eh bien, il nouera des liens qu'il va poursuivre jusqu'au moment où ses amis de l'époque deviendront ministres de Mobutu, c'est-à-dire après 1965, alors les relations s'estompent.
Il défendra pas mal de gens, on le disait tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de votre progression jusqu'à nos studios. Pierre Van den Nugen, passé par le Librex. Et peut-être un peu plus tôt, en poussant la première porte, vous avez vu qu'à votre gauche, il y avait la résidence Willy Peirce. Il a donc été également l'avocat de ce gynécologue arrêté sur dénonciation anonyme en janvier 1973 pour avoir procédé à l'avortement d'une jeune femme de 27 ans présentant un handicap mental. Alors il a été mis en détention et il sera accusé d'avoir pratiqué plus de 300 avortements. Là aussi, on est dans la question du droit face à la morale.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que donc, le combat en faveur de la dépénalisation de l'avortement est menée, il faut toujours le rappeler, d'abord par les associations féminines et féministes. Et l'Allemand sera un relais tout à la fois en tant qu'avocat de Willy Peirce, effectivement, gynécologue au passé prestigieux, de résistant, militant communiste. Moi, les gens que j'ai rencontrés, qui l'ont connu, m'ont donné l'impression qu'ils avaient côtoyé un saint laïc, si je puis dire. Et un combat qu'il conduira également donc dans l'enceinte du Sénat. Et donc l'idée, c'est effectivement de dire que les femmes, à l'époque déjà, qui étaient socialement plus favorisées, pouvaient, avec des difficultés, mais pouvaient aller se faire avorter à l'étranger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la justice n'était pas appliquée de la même façon partout en Belgique. Ça dépendait effectivement des cours, donc c'est tout à fait injuste. Et aussi, de manière globale, il y avait une évolution de la société qui allait à l'encontre de ce que la loi disait, ou plus précisément encore, une interprétation de la loi où, et je pense le montrer régulièrement, de nombreux magistrats faisaient une interprétation de la loi mesurée à l'aune de leur foi catholique. Ce qui, évidemment, est faire appel au dogme pour rendre la justice, c'est ce qui est contraire à l'esprit du droit.
et à l'esprit du libre examen, bien évidemment.
Absolument.
Beaucoup d'autres affaires, on va en rapporter quelques-unes là maintenant, lors des prochaines minutes. Mais d'abord une question complémentaire. Est-ce qu'il a toujours mené de front, d'une certaine manière, Roger Lallemand, ses activités d'avocat et ses activités politiques?
Disons, pas toujours, mais pendant longtemps. C'est-à-dire, à tout le moins, il était au Sénat de 1979 à 1999. Alors, dans les dernières années, il était plus souvent politique qu'en train de plaider. Mais disons que, de son point de vue, il y a effectivement à la fois cohérence et cohésion, en fait, dans le double engagement. C'est-à-dire que on doit faire changer les choses. Donc, on joue avec les associations de terrain, on s'en fait le relais par le biais du droit, par le fait qu'il est avocat, mais aussi par le biais de la politique, puisque c'est un réseau important où il peut essayer de convaincre des élus de son bord et des autres bords de modifier la loi, effectivement.
Il défendra Michel Vincino, autre ulbiste, et bien sûr Michel Grindorge, des procès qui feront date. Pourquoi ces deux-là?
Mais alors, pour deux raisons différentes, mais disons que commençons par Grindorge, puisque chronologiquement, ça arrive avant. Donc Grindorge était un avocat très singulier qui, effectivement, avait des démons personnels, comme on dit, d'une part, et qui, d'autre part, était très, très proche de tout ce courant qui, au sortir de mai 68, pensait qu'il fallait renverser la table, en quelque sorte, y compris même par l'action terroriste. Pour autant, l'Allemand l'a défendu parce qu'il estime que, donc de son point de vue, il estime que les luttes armées peuvent être légitimes dans le cas d'États autocratiques. En revanche, il est beaucoup plus critique pour les avoir observées quant, je dirais, au terrorisme d'extrême gauche, qu'il estime contre-productif et finalement méprisant à l'encontre de la classe ouvrière. Mais pour autant, il va défendre Grindorge parce qu'il dit dans le droit ne peut pas surinterpréter ce qu'écrit un avocat, ce qu'écrit un intellectuel. Il peut tenir des propos radicaux sans être enfermé. Et dans le cas de Grindorge, je passais plusieurs dizaines de jours en préventive, ce qui est évidemment très grave. Et c'est de cette manière que, à travers le symbole Grindorge en quelque sorte, l'Allemand va rappeler qu'il est indispensable que la loi s'applique la même à toutes et tous. Ça, c'est une première chose. Quant à Vincino, c'est devenu le procès de l'homosexualité, effectivement. Vincino, avec son compagnon de l'époque, avait ouvert en fait un salon où des hommes consentants pouvaient se réunir, enfin, deux en vérité, un à Anvers et un à Bruxelles. Et il est donc accusé de débauche. Vincino, qui lui-même était professeur ici et donc licencié, enfin docteur en droit, va démontrer que l'usage de débauche est tout à fait excessif et même contraire à l'esprit de la loi. C'est d'ailleurs Vincino lui-même qui en convainc l'Allemand, en l'occurrence. Mais au-delà de ça, l'Allemand va surtout montrer avec les collègues avocats avec qui il défend le dossier que c'est, de la part de certains magistrats, véritablement un procès de l'homosexualité qui est fait. Et donc, à ce moment-là, l'université, et d'ailleurs, y compris, je pense qu'il est recteur à l'époque ou président, je ne sais plus, Hervé Asquin, s'engage assez nettement sur le sujet en disant qu'effectivement, nous sommes en 1985, nous sommes véritablement dans un procès de l'homosexualité. Donc, l'idée est que l'on n'apprécie ou qu'on n'apprécie pas pour des raisons morales un comportement, un choix, une appétence, c'est indifférent. La loi autorise et c'est ça qui compte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler.
C'est pas une question de bonne mœurs.
Surtout pour les temps qui courent, où beaucoup de gens aujourd'hui en politique ont tendance à nier l'état de droit. Aujourd'hui, des responsables politiques n'écoutent pas ce que peut dire le Conseil d'État, ce que peut dire la Cour constitutionnelle. C'est très grave, en fait.
Bien sûr, on voit à qui vous faites allusion, entre autres dans les questions migratoires. On en a parlé il y a un instant. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir comptent parmi ses connaissances, sinon ses amis. Ça, on peut toucher peut-être un mot, mais ça, c'est une question philosophique. L'existentialisme, ça lui parle.
Ça lui parle, et d'autant plus que s'il n'a pas rendu de mémoire, en plus de toutes les études qu'il a faites, il a suivi effectivement une formation en philosophie ici.
Qu'il n'a pas fait.
On peut même dire que c'est la philosophie qui inspire vraiment sa pratique de la politique. Donc il y a deux choses qu'il admire par-dessus tout, c'est la poésie et la philosophie, vraiment. La littérature de manière générale. Et donc c'est certain que dans ses premières années, cette idée d'un engagement et d'être présent sur tous les fronts des combats du monde, ce dont Sartre essaie de convaincre la jeunesse, eh bien, l'Allemand, il y souscrit pleinement.
Voilà, alors il va d'ailleurs se rendre en Bolivie pour défendre Régis Debray, autre figure marquante de la sphère intellectuelle française, détenu pour avoir soutenu Che Guevara. Ça, c'est en 1967. C'est incroyable.
Bah, disons que ce qui est marrant, c'est que surtout, l'Allemand va essayer d'être son avocat. Finalement, il ne pourra pas l'être directement. Il est mandaté par la Ligue internationale des droits de l'homme, comme on disait à l'époque. La défense de Debray dira « Mais non, j'étais là pour faire un reportage et tout ». Bon, finalement, Debray reconnaîtra qu'il était réellement parti dans l'idée de soutenir cette guérilla, cette fameuse guérilla internationale qui devait conduire à tout un ensemble de foyers de révolte à travers le monde pour renverser l'ancien système. Il se fait que, par la suite, en revanche, à partir du début des années 1970, Debray et l'Allemand seront vraiment proches, partageront énormément de choses et se verront, échangeront jusqu'à la mort de l'Allemand.
Et puis le cap Babar, donc surnom donné à Roger Noël, c'est intéressant parce que là on vient un peu plus près de chez nous, mais il est emprisonné en Pologne pour son soutien à Solidarność. Il faut rappeler que c'est un journaliste engagé, entre autres dans ce périodique alternative libertaire qui porte bien son nom. Pourquoi est-ce qu'il a voulu le défendre? C'est parce que, quand même, comme on le disait en début d'entretien, c'est un homme de gauche, s'il n'est pas de gauche radicale, en tout cas, il est à la gauche de la gauche, comme c'est le titre d'un de vos chapitres. C'est pour ça, parce qu'il il revendique le besoin de soutenir des gens qui s'engagent.
Alors oui, exactement. C'est-à-dire que ce qu'il a trouvé très intéressant dans le parcours de Babar, c'est qu'il y a cette logique de radio libre qui est un principe de liberté d'expression que l'Allemand va soutenir, comme il a d'ailleurs soutenu.
Il a amené du matériel qui permettait de diffuser du son via les ondes en Pologne.
Exactement, et ça le touche d'autant plus que, je le répète, donc il a été fort à gauche, et l'Allemand a toujours été critique à l'encontre des régimes communistes, du grand empire soviétique, et qu'il y avait une espèce de contradiction que Babar pouvait montrer face au pouvoir de Jaruzelski à l'époque, de dire, ben voilà, donc il a essayé d'apporter son soutien à ses ouvriers, et... Donc il est emprisonné, alors la caution va très rapidement rassemblée, notamment grâce à un grand concert qui a lieu ici avec en tête d'affiche Léo Ferré. Mais pour l'Allemand, voilà une double logique qu'il trouve admirable, c'est-à-dire cette idée de radio libre d'une part, et d'autre part le fait d'avoir effectivement le courage d'aller sur place dans une idée d'universalisme, de défense des libertés. Donc ça, c'est Là, il est déjà un peu plus âgé, mais c'est quelque chose qui peut lui rappeler finalement ses propres engagements de jeunesse.
Voilà, on est en 1982, donc c'est la grande période des radios libres, voire pirates.
Pirates, carrément.
Carrément, on peut le dire.
C'est une époque où on se coupait les antennes, etc., carrément. Oui.
D'accord, vous nous raconterez ça une autre fois, Pierre van den Dungen. Enfin non, dites-le nous maintenant, qu'est-ce que vous avez fait exactement?
Non, mais c'était c'est à peu près à cette époque-là, quelques années après, c'était assez, comme on disait, rock'n'roll. C'est vrai que les ondes n'étaient pas attribuées véritablement. Oui. Donc ça pouvait, du jour au lendemain, d'ailleurs la radio, qui était le premier RFM à laquelle j'ai participé, a été supprimée en quelque sorte, parce qu'il y a une distribution en fait, des ondes. Mais c'était une époque très audacieuse, c'est vrai, toutes les expériences étaient permises. Oui.
Son nom inspire pas mal d'idées. Hein. Par exemple, il y a son nom qui est donné à une place de sa ville ou de sa commune de naissance, qui est pas Belœil, mais
ça fait partie de l'entité de Belœil. Exactement.
C'est ça. Oui, oui. Donc, ça arrive évidemment aux hommes d'État que leur nom soit associé à des places, à des rues, mais à une école, c'est peut-être un peu moins fréquent. Il y a à Saint-Gilles une école qui est intitulée le LIRL, l'acronyme de Lycée Intégral Roger Lallemand. Je crois qu'il est mort à Saint-Gilles, Roger Lallemand, donc c'était la commune où il a vécu à la fin de sa vie. Pourquoi est-ce que les autorités communales de Saint-Gilles ont-elles décidé de mettre en place une école à pédagogie active en donnant le nom de Roger Lallemand?
Je suppose que c'est effectivement son parcours de progressiste qui a pu donner cette idée. Je n'ai pas en fait la connaissance précise du cheminement qui a conduit à ça. On sait aussi qu'aujourd'hui, quand on choisit le nom de quelqu'un ou quelqu'une, il faut bien vérifier s'il n'y a pas de tâche dans le parcours et de casserole. Mmh. En l'occurrence, sauf découverte de dernière minute, je pense que c'est le cas. Et puis, c'est aussi vraisemblablement parce que toute sa vie, il a toujours considéré, et c'est une longue tradition d'ailleurs au sein du Parti Socialiste, qu'à côté du pain matériel qu'il fallait d'abord donner à tous et toutes, il y avait ce qu'on peut appeler un pain spirituel, qui est celui en fait des arts, de la culture. Et donc il faut aussi faire tout ce que l'on peut pour apprendre en formation, en instruction obligatoire, mais aussi en formation continue, inviter des conférenciers, faire découvrir la musique, le théâtre. Il a participé donc au PAC que le Parti Socialiste avait créé sur la base des fédérations dans les différentes communes.
Présence et action culturelle.
Exactement. Donc l'idée de dire qu'en plus, je dirais, d'une démocratie sociale, il faut aussi, dans cette démocratie sociale, lui donner une dimension de démocratie culturelle pour créer aussi un lien entre les gens.
Alors, il était mélomane, comme vous d'ailleurs, je crois, Pierre Van Den Dungen. Oui. Roger Lallemand a été, pendant de nombreuses années, jusqu'en 2010, alternativement président ou vice-président du conseil d'administration du Théâtre Royal de la Monnaie. Ça correspond à ce que vous venez de dire, la culture comme ciment, comme lien.
Oui, et puis aussi parce qu'à titre personnel, effectivement, donc c'est un passionné de musique classique, c'est un passionné donc de poésie, je l'ai dit, de littérature. C'est un grand expert de la poésie de Mallarmé, qui n'est pas la plus facile. Donc c'est bien dans cette idée que cette culture élève, et comme il disait souvent, finalement, lui qui était athée, eh bien, il avait l'impression parfois d'accéder à certaines transcendances par la poésie. Voilà.
Et alors vous, le collectif musical Berthier, en un mot?
Ah oui, non, mais ça c'est le hasard des choses. Enfin, ça fait une dizaine d'années, effectivement, que je pense qu'il faut aussi, c'est vrai, avec le plus possible d'amis musiciens, mais aussi d'amis créateurs d'images, créer, effectivement. Moi, j'écris des textes, et donc je chante, mais ça m'a permis de rencontrer quelques dizaines, en fait, d'artistes, donc de musiciens, de musiciennes, compositeurs, compositrices. Et dernièrement, avec l'album Machine Ronde, Lucas Racas, qui nous a composé et créé un court-métrage qui a parcouru le monde. Et on l'a fait traduire, puisque j'écris en français, donc il faut quand même traduire en anglais. Mais c'est vrai que ça a eu... je pense que c'est important de rester ouvert en fait à ce qui se crée, la création étant ce qu'on fait à l'école, mais d'espérer, je suis formateur, futur enseignant, le but est de ne pas dégoûter ceux qu'on forme, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que parce qu'ils ont leur diplôme, tout est fait. Au contraire, quand ils ont leur diplôme, tout commence. Tout commence, c'est-à-dire qu'on leur a appris à apprendre, mais le but, c'est qu'ils continuent à apprendre tout le temps et qu'ils remettent en question leurs certitudes, qu'ils se bougent et qu'ils soient à l'écoute aussi, sans forcément adhérer à tout. Mais je prends toujours ce même exemple, il y a deux historiennes que j'admire beaucoup, Mona Ozouf et Michel Perrault, elles ont presque 200 ans, et il y a un journaliste qui leur demande, si vous voyez de jeunes féministes qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur dites? Et Mona Ozouf, très légitimement, militante, je leur dis ça, et puis Michel Perrault, la doyenne, elle dit, eh bien, d'abord, je vais commencer par les écouter, et puis on verra quels sont nos points communs, comment on peut avancer ensemble. Eh bien, je pense que, comme j'ai fait le choix quand je suis entré dans la quincaillerie, que j'ai dans la cinquantaine, de m'intéresser à des gens qui ont été progressistes, qui ont pensé le bien commun, je pense que on n'a pas à être d'accord avec tout ce qui se dit pour les plus jeunes qui viennent vers nous, mais je pense que de dire bah, tout ce que pensent les jeunes, c'est des conneries, je pense que ça, c'est vraiment lamentable comme positionnement, surtout dans un monde qui vieillit. On est à près de 30% de gens qui ont 60 ans et plus, donc dans nos sociétés. Hein. Mmh. Donc, il faut être à l'écoute, pas par démagogie, pas par jeunisme, il faut être à l'écoute de ce qui se crée, de ce qui se pense, de ce qui se ressent dans les plus jeunes générations, parce qu'il y a aujourd'hui des autres manières de dessiner le monde en commun, et je pense que certaines réactions, notamment masculinistes aujourd'hui, sont le fait de gens qui comprennent que, malgré tous leurs efforts pour que ça n'arrive pas, une société est en train effectivement de changer. Oui.
Et quelque chose leur échappe. Vous disiez tuteur enseignant ?
Oui, parce qu'en histoire, ici, moi, je forme ceux qui seront professeurs dans le degré supérieur, donc, c'est-à-dire ceux qui donneront cours, comme ils disent en France, au lycée, donc entre la quatrième et la réto. Mmh. C'est pas, y en avait beaucoup, il n'y en a plus beaucoup qui veulent faire ce métier-là, c'est dommage. Mmh. Mais je pense que l'école, qui doit certainement se rénover à bien des égards, reste un espace. Si on fait découvrir les différentes disciplines, qu'on les place en interdisciplinarité le plus possible, je pense que c'est vraiment un endroit où les jeunes peuvent ouvrir les portes de la perception, comme aurait dit Huxley et les Doors par la suite.
Ok, encore deux belles références, Huxley et les Doors.
On n'est pas forcément obligé de se défoncer. Hein,
mais... Non, mais je prends.
Le savoir défonce.
Très bien, on va méditer cette phrase. Oui. Merci Pierre van den Lungen. Je rappelle que vous êtes historien et vous êtes professeur à l'ULB et oui. À la Cambre. Vous êtes historien, donc pour composer un ouvrage comme celui-ci, qui compte, attendez, je vérifie. C'est intéressant de dire aussi qu'il y a pas mal d'iconographie derrière, de photos d'archives.
Des images.
Ouais. Mais il y a quand même plus de 200 pages de texte.
Oui.
Vous êtes plongé dans les archives, j'imagine. Oui. Vous avez rencontré des gens qui ont bien voulu, en direct, vous donner quelques informations de première main.
Je pense, une quinzaine d'entretiens. Toutes les archives familiales non classées, d'ailleurs, auxquelles j'ai eu accès. Ce livre-ci, c'est une volonté, finalement, au départ. Il y a peu de notes de bas de page, il y a un style qui se veut, je dirais, moins académique. Pourquoi ? Parce que c'était un peu le but de faire un livre accessible à un public donc averti, comme on dit, tandis qu'effectivement, le Henri Lafontaine était vraiment un ouvrage, je crois qu'il y avait 480 pages, il y a un volume de notes, rien que ça, c'est assez, c'est mon côté, je crois qu'il est propre à beaucoup d'historiens et d'historiennes, un côté un peu autistique et très à cheval sur la référence, mais c'est en fait c'est ce qui permet de faire la preuve, hein, donc c'est normal de faire très attention à ça. Mais moi, j'aime bien, on sait, quand on va travailler sur un sujet, ben on disparaît, entre guillemets, pas entièrement, mais enfin quand même plusieurs heures par jour,
absorbé par son
pendant 2-3 ans. Ben oui, non, ça c'est certain, c'est indispensable.
Alors parlons-en de Henri Lafontaine, hein, je rappelle, prix Nobel de la paix 1913, une fondation qui porte son nom, dont vous êtes le président.
Oui.
C'est quoi cette fondation ? Qu'est-ce qu'elle défend ?
En fait,
je rappelle aussi, excusez-moi, Pierre van den Dungen, je rappelle juste que ce livre, Roger Lallemand, La liberté en chemin, est publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine.
Bah, c'est une des choses qu'elle fait, c'est-à-dire que je dis toujours, au lieu de défendre, elle illustre les idées, finalement, d'Henri Lafontaine, qui sont les suivantes. Donc c'était un internationaliste, un pacifiste, un féministe, pour un homme de son époque, mais un féministe en tout cas très engagé avec sa sœur, Léonie Lafontaine, sur laquelle on va d'ailleurs rédiger une biographie, pas moi, quelqu'un d'autre. Donc, et le but, c'est de poursuivre en quelque sorte cet héritage, mais aussi d'essayer, notamment par la remise d'un prix qui a lieu donc tous les deux ans, de récompenser, avec une somme d'argent, de récompenser une association. Le dernier gagnant en date était le Centre de droit international de cette université, de récompenser celles et ceux qui travaillent en faveur de toutes ces idées-là. Donc, en fait, à nouveau, de réfléchir à un ensemble d'idées qui essayent de travailler donc, pour le progrès, disons, du bien commun. C'est donc aussi une maison d'édition, puisque c'est un des moyens de diffuser ces idées. Et donc, la Fondation, de cette façon, essaye vraiment donc, de prendre part. Aussi, elle crée une journée de réflexion. On est d'ailleurs en train d'essayer de la mettre en place pour la rentrée prochaine.
Vous allez nous en parler ?
Alors, c'est vraiment au niveau du projet, mais on voudrait vraiment faire une journée de réflexion justement sur comment rendre plus concret justement la logique des droits humains dans le cadre des états de droit et du droit international, parce qu'ils sont effectivement très blackboulés pour le moment, mais comment on peut aussi être raccord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et on va essayer d'y réfléchir avec des associations de terrain, mais aussi avec des juristes, des magistrats, et avec la participation d'élèves. Donc ça se met en place, mais ce sont ces choses-là, disons, qui sont aux marges entre le monde académique, mais aussi le monde associatif, et en contact avec le monde politique aussi, bien sûr.
Raccord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça sonne comme une parole de Roger Lallemand, ça presque, non?
On essaye, c'est pas facile, mais il faut essayer. Oui,
je rappelle le titre de votre ouvrage, Roger Lallemand, La liberté en chemin, publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Merci beaucoup, Pierre van den Dungen, d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Tu m'as fêté à m'en gaver la tête, à goûter chaque seconde. Machine ronde, machine ronde, machine ronde, féconde, féconde. Machine ronde, machine ronde, machine ronde. C'est con, c'est con. J'ai tant aimé, haï aussi. Toi seul pouvais te permettre de m'en mettre plein la vie, ma folie, sans jamais te souffrir. Machine ronde, machine ronde, machine ronde, c'est con, c'est con. Machine ronde, machine ronde, machine ronde, c'est con, c'est con. Machine ronde, machine ronde, machine ronde. C'est con, c'est con. Si beau, si fort, ni faux, ni mort. Jamais d'accord. À se croire de taille sans gouvernail. Et au final du final, sentirait pas mal. Machine ronde, machine ronde.
Voilà, au cours de cet entretien, vous avez eu l'occasion d'entendre l'historien Pierre van den Dungen, qui publie donc une biographie sur Roger Lallemand, intitulée tout simplement Roger Lallemand, la liberté en chemin, sous-titre publié aux éditions de la Fondation Henri Lafontaine. Vous avez pu entendre quelques pauses musicales aussi que l'on doit au collectif musical Berthier avec le titre Machine Ronde. C'est le titre de l'album d'ailleurs. Et vous aurez peut-être reconnu la voix de Pierre van den Dungen au chant, entre autres. Mais aujourd'hui, on parlait surtout de ce livre, Roger Lallemand, La liberté en chemin, publié donc aux éditions Henri Lafontaine, connu, je vous le rappelle, comme co-auteur de la loi sur la dépénalisation de l'avortement en Belgique. Mais cet avocat brillant et ministre d'État s'est également impliqué, vous l'aurez compris, dans de nombreux débats éthiques et politiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.